Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Quel est le plus grand péché de l'homme? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire qui pourra changer le cours de votre vie, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que vous allez aimer les questions qu'on va poser au Seigneur aujourd'hui. Et surtout les réponses que sa parole va nous donner. Alors, sans plus tarder, voici les questions. Est-ce que la nature nous parle d'un créateur? Qui est le créateur de la terre et de tout ce qu'elle renferme? Est-ce que les commandements de Dieu sont parfaitement justes et purs? Est-ce que notre cœur peut nous tromper? Quel est le plus grand péché de l'homme? Quel est notre meilleur recours en temps de trouble? Est-ce que Dieu a entendu toutes les prières de Jésus? Devrions-nous prier pour nos chefs de gouvernement? Demeurez avec nous, les Saintes Écritures vont nous être enseignées par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Dieu a une réponse pour chacune de nos questions, alors demandons-lui de nous aider à bien comprendre chacune de ses réponses. Prions. Oui Seigneur, on t'a posé plein de questions aujourd'hui, et on s'attend d'avoir tes réponses. On veut être certain que ça vient de toi, Seigneur. Convainc nos cœurs, convainc-nous, Seigneur, de tout ce que tu vas nous dire et aide-nous à l'appliquer dans nos vies pour mieux te servir, pour te glorifier sur cette terre. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Ce psaume 19 est considéré un grand psaume qui traite de la création. Plusieurs érudits le divisent en deux parties. La création et la révélation de Dieu dans la loi, c'est-à-dire sa parole. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, le divise en trois parties. La création de l'univers, les commandements et Jésus-Christ. Je pense que ce psaume a sa place dans le traitement du sujet de la rédemption, du salut et de la grâce de Dieu. Nous verrons que Dieu se révèle dans sa création, dans ses commandements et dans sa grâce manifestée par Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu a jugé bon de révéler à l'humanité, et je ne pense pas qu'il nous ait tout dit à son sujet. Ce psaume fut écrit par David et le texte inspiré nous le confirme. Nous remarquons aussi une division dans le texte. Dans les 6 premiers versets, Dieu est appelé « elle » ou par la forme plurielle « d'elle soit Elohim ». Le nom veut dire « tout-puissant ». Il est le tout-puissant qui a créé l'univers. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Citation de Genèse, chapitre 1, verset 1. La deuxième partie débute au verset 7. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». C'est le nom de Yahweh qui est utilisé pour Dieu. Nous retrouvons le nom 7 fois dans la section. Et la dernière fois qu'il est utilisé au dernier verset du psaume, deux autres noms y sont rattachés. Yahweh, Tsuri, Gueli. Yahweh, mon rocher, mon libérateur. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 19, versets 1 à 7. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Chers amis, la nature nous parle d'un créateur. C'est un psaume merveilleux. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Paul l'affirme, en d'autres mots, dans son épître aux Romains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains chapitre 1, verset 20. Les cieux nous révèlent la sagesse de Dieu, sa puissance, et il nous donne un aperçu du plan et du but de Dieu. Depuis le début, la création a toujours été la révélation naturelle de Dieu faite à l'humanité. La création est l'œuvre de la Trinité. Les confessions de foi de l'Église, dont le Credo des apôtres, attribuent la création à Dieu le Père. Mais dans le Nouveau Testament, les Écritures élaborent davantage sur ce sujet. Nous apprenons quelques détails supplémentaires au sujet de la création. Nous voyons que la Trinité était active lors de la création. En fait, le nom Elohim est une forme du pluriel en hébreu, et le nom révèle la Trinité. Le Nouveau Testament nous enseigne que le Seigneur Jésus fut l'agent créateur et que l'Esprit y a aussi participé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1, verset 2. L'apôtre Jean jette aussi de la lumière sur la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. La parole, c'est le Seigneur Jésus. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Citation de Jean chapitre 1, verset 14. L'Épître aux Colossiens dit ceci au sujet du Seigneur Jésus. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens chapitre 1, verset 16. Le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens nous enseigne que les trois personnes de la Trinité ont contribué à notre rédemption. Dieu l'a planifié, le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs. Nous voyons un parallèle avec la création. Dieu a planifié l'univers, le Fils l'a créé et il l'a racheté. Le Saint-Esprit se déplace au-dessus de la création. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Voilà ce que dit le psaume. Le soleil, semblable à un époux, est une image du Seigneur Jésus-Christ. Le soleil est une belle image du Seigneur dans la création. Le psaume 19 est un psaume touchant. Poursuivons notre lecture, versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Notez ce que ce psaume affirme au sujet des commandements. Les commandements de Dieu sont parfaitement justes et purs. Premièrement, ils sont parfaits. La loi ne peut pas nous sauver parce qu'elle est parfaite et que nous ne le sommes pas. Nous ne pouvons pas nous conformer à la loi. Cependant, le problème n'est pas avec la loi. L'apôtre Paul a dit, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Citation de Romains chapitre 7, versets 12 à 14. La loi nous révèle notre nature pécheresse et notre besoin d'un sauveur. La loi est parfaite, chers amis. Deuxième point. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Ne comptez pas sur l'Éternel pour modifier ses lois pour accommoder les courants de pensée modernes. Dieu n'est pas abonné aux revues de psychologie ou du Nouvel Âge. Il ne modifie pas ses lois en fonction des décisions de la Cour suprême ou des causes types des tribunaux qui interprètent la Constitution. Dieu va punir le péché et nous serons jugés selon sa loi. Ses commandements sont vrais. Troisièmement, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Dieu est le Créateur de l'univers. Il fait les règles et elles sont droites et parfaites. Certaines personnes aimeraient faire leur propre loi, mais elles ne le peuvent pas. Un jour, un couple qui vivait en union de fait depuis un certain temps décida de sceller leur union par un mariage. Le couple opta pour un mariage civil devant le juge. Le marié invita un de ses amis qui était un marginal. Le matin du mariage, la mère de la mariée demanda au jeune couple s'il avait prévu apporter de l'argent pour les frais du juge.
« Le juge a de l'argent plein les poches !» dit l'ami marginal. « Pourquoi devrions-nous payer ?»
Mais, arrivé devant le juge, il fallait acquitter les frais avant qu'il procède au mariage. Le couple, embarrassé, dut emprunter l'argent du photographe. Chers amis, sommes-nous des marginaux spirituels? Nous ne pouvons pas faire nos propres lois. Nous serons jugés selon celles de Dieu. Il est le Créateur et il a fait des lois, et il observe ses règlements. Lorsque nous comparaîtrons devant Dieu pour être jugés, il n'y aura pas de photographe à qui emprunter la justice dont nous aurons besoin. Celui qui aurait pu nous en donner une aura été promu juge. Nous ne pourrons pas acquitter les frais pour faire partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église. Quatrièmement, les commandements de l'Éternel sont purs. Je vous le dis, ils sont purs. Ils feront une chose pour vous. Ils vous élèveront et vous ennobliront, c'est-à-dire ils vous élèveront moralement. Cinquièmement, la crainte de l'Éternel est pure. La vraie attitude à avoir, c'est la crainte de l'Éternel. Cette attitude est prescrite dans la Bible, et lorsqu'elle règne dans un cœur et qu'elle est mise en pratique, elle purifie notre cœur. Sixièmement, les jugements de l'Éternel sont vrais. Voulez-vous connaître la vérité? Pilate a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 18, verset 38. La vérité était debout devant lui, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean chapitre 14, verset 6. Septièmement, les jugements de l'Éternel sont tous justes. Tout ce que Dieu fait est juste. Nous devrions apprendre à aimer toute la parole de Dieu. La vérité et la justice sont les fondements de toute stabilité. Maintenant, nous passons à la section qui traite de la grâce du Seigneur Jésus, les versets 13 à 15. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Notre cœur nous trompe, chers amis. Qui connaît ses égarements? Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Citation du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9. Il arrive que nous ne soyons pas conscients de nos véritables motifs. Sans le savoir, nous faisons des choses pour satisfaire nos propres passions, alors que nous croyons agir pour la gloire de Dieu.
pardonne-moi ceux que j'ignore. Il n'est pas rare qu'un chrétien pèche par ignorance. Nous ne nous rendons pas toujours compte à quel point nous sommes pécheurs. Cependant, croyons la parole lorsqu'elle affirme que nous le sommes. L'orgueil vous empêche-t-il de venir au Seigneur Jésus? Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Je serai intègre, innocent de grands péchés. Chers amis, je vous repose cette question. L'orgueil vous empêche-t-il de venir au Seigneur Jésus? Rejeter Jésus-Christ est le plus grand péché que nous puissions commettre. Écoutez la fin de ce psaume. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Qui était le rocher de David? Le Seigneur Jésus. Qui était son Rédempteur? Le Seigneur Jésus. Il est aussi mon rocher et mon Rédempteur. C'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu. Maintenant, chers amis, nous passons au psaume 20. Ce psaume n'est pas classé comme un psaume messianique, mais je le considère comme tel car il prophétise la venue de son Messie et la rédemption qu'il accomplit. Ce psaume était chanté avec les psaumes 21 et 22 lors des rituels au temple. Certains érudits pensent que ces psaumes étaient des chants à répondre. Certains voient dans ce psaume le peuple de Dieu qui prie pour la prospérité du Messie, qui combattra pour lui et qui sera son champion et son libérateur. Le peuple prie aussi afin que le Père accepte l'œuvre du Messie et que sa volonté soit faite. Ce psaume traite de la grâce de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 20, versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Au jour de la détresse, nous aimons que Dieu entende nos prières. Ceci est un psaume de David. Comment se fait-il qu'il parle de Jacob? Par la grâce de Dieu, il n'a jamais eu honte d'être appelé le Dieu de Jacob. J'aurais eu honte de Jacob à cause de certaines de ses actions. Peut-être est-ce aussi votre cas, mais Dieu n'a pas eu honte de Jacob. Dieu sauva Jacob par grâce. Verset 3. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. De quel sanctuaire parle-t-il? De celui à Jérusalem, Sion étant Israël. Dieu a fait une alliance avec les siens. Nous pouvons toujours venir au trône de la grâce. Lorsque nous obtenons de l'aide, selon les voies de Dieu, selon les ordonnances de Dieu, ce secours est toujours bienfaisant. Verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Notez qu'il ne parle pas de nos offrandes, mais de celles du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était sur terre, Jésus a offert non seulement des prières et des larmes, comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, mais aussi son propre corps. En temps de trouble, le meilleur recours est la prière personnelle, familiale et nationale. Malheureusement, les nations ne prient plus. Comment Dieu peut-il les diriger, les guider, les protéger et même les bénir? Pause. Ce petit mot à la fin de certains versets nous rappelle qu'il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Voilà donc un sujet de méditation pour nos temps troublés. Poursuivons notre lecture, versets 5 à 7. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Dieu a entendu toutes les prières de Jésus. Le Père a entendu les prières du Seigneur Jésus lorsqu'il était ici-bas sur cette terre. Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Citation de Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Le Seigneur Jésus est probablement la seule personne dont Dieu a entendu et répondu toutes les prières, car il n'a jamais rien demandé en vue de satisfaire ses convoitises et ses passions. Des prières furent faites par le Messie à venir. David a demandé des prières pour lui. Les hommes de Dieu, dans des positions importantes, ne devraient pas hésiter à demander des prières. De plus, nos gouvernements et nos chefs d'État ont aussi besoin de prières. Écoutez attentivement ce texte de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lorsque Dieu accueille nos prières, c'est une grande grâce. Les prières répondues sont inséparables d'un cœur qui aime Dieu et qui est en relation intime avec lui. Dieu entendait les prières de David. Il a entendu celles de son fils. En fait, Dieu a toujours entendu les prières de ceux qui recherchaient sa gloire et qui désiraient l'honorer. Versets 8 à 10. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Le monde s'appuie sur des armées, des armes, des navires, des avions. Mais tous les États et les empires finissent par être renversés. Les grands de ce monde peuvent affirmer que la Providence favorise une armée puissante, mais la Bible ne dit pas cela. Gédéon a défait une armée puissante avec seulement 300 hommes. Judas est allé au-devant de l'envahisseur avec des musiciens. Dieu a combattu pour les Hébreux alors qu'ils ont traversé la mer Rouge. Chers amis, si nous voulons goûter la victoire, rallions-nous derrière Jésus-Christ et travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Écoutez ce texte de 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le roi est pour Israël. Pour nous, il est le Sauveur, et nous prions au nom du Seigneur Jésus. Le mot hébreu pour éternel, sauve et hosanna. Oh, que tu puisses, dans ton cœur, crier hosanna, éternel, sauve, car lui seul peut vaincre le mal qui est en toi. Puisse Dieu ouvrir ton cœur aux vérités de ce psaume. Que tu puisses y mettre toute ta confiance en ce grand Dieu qui vient de se faire connaître à travers cette émission et à travers l'étude de ce texte, qui est la parole de Dieu. Y as-tu placé ta foi? Ta confiance est-elle dans ses écrits? La seule, l'unique, celle que Jésus déclare être la vérité. En Jésus, tu places ta foi dans la seule et unique vérité venant de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant deux psaumes, le 21 et le 22. Au revoir.
Merci beaucoup, Régent. C'est tellement beau d'entendre et de réaliser la belle harmonie qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la création et aussi dans notre salut. J'aimerais répéter ce que tu as dit au sujet de notre salut. Tu as dit que les trois personnes de la Trinité ont contribué à notre rédemption. Dieu l'a planifié, le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs. Mes amis, je vois tellement à quel point Dieu nous aime à travers cette déclaration. Mon cœur est vraiment reconnaissant envers Dieu pour cet amour qu'il a eu envers moi, d'envoyer son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. et je lui suis aussi reconnaissante pour son Esprit Saint qui m'a un jour convaincue que j'étais une pécheresse perdue qui avait désespérément besoin du salut gratuit qu'il m'offrait. Et Dieu n'est pas uniquement mon sauveur, mais comme Réjean l'a si bien dit aujourd'hui à la fin du psaume 19, le Seigneur est mon rocher et mon libérateur. Combien de fois dans ma vie j'ai demandé le secours de Dieu? Même avant d'avoir reçu son salut, le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, j'ai composé un chant qui était mon cri de détresse et Dieu m'a entendu. Dans mon chant, je disais, « Seigneur, où es-tu? Je te cherche et je ne te trouve pas. Seigneur, vois-tu ma misère? Entends-tu ma prière? Prends pitié de moi, je vis sous un nuage, ma barque fait naufrage. » Eh bien, mon ami, le Seigneur a entendu mon cri. Et il a placé quelqu'un sur ma route pour me faire connaître son amour, pour me dire qu'il voulait me sauver. Et en ce moment, il le fait pour toi. Es-tu en train de vivre une grosse épreuve? Peut-être que tu es en instance de divorce. Peut-être que tu viens de perdre un être cher par la mort. Peut-être qu'on te fait vivre une grande injustice, soit à ton travail, dans ta famille, ou même dans ton cercle d'amis. Et je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur le sait. Et présentement, il est à ta porte, à la porte de ton cœur, et il frappe en toute douceur. Mon ami, la porte de ton cœur n'a qu'une poignée, et elle est par en dedans. Tu es le seul ou la seule à pouvoir l'ouvrir. Et la manière de l'ouvrir, c'est de réaliser que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. C'est de te repentir, c'est-à-dire de changer de direction à l'égard du péché. Et c'est de reconnaître que c'est pour toi personnellement que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a payé ta dette en entier. Il a subi le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. Demande à Jésus tout simplement de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui et crois-le. Crois qu'il veut le faire. Il y a un apôtre qui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ça s'applique à toi aujourd'hui, mon ami. Crois au Seigneur Jésus. Place ta confiance en lui seul. Place-la pas dans tes souffrances. Place-la pas dans tout le bien que tu as fait dans ta vie. Ça ne compte pas. Rien de toutes ces choses ne peut effacer tes péchés. Il y a seulement Jésus qui peut les effacer. Il a payé pour le faire. Et quand il était à la croix, il pensait à toi. Il savait que tu viendrais sur cette terre et que tu serais un pécheur perdu. Reçois Jésus.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.